Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Archery. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La princesse de Lamballe, elle, amie sacrifiée de Marie-Antoinette » est une biographie historique d'Emmanuel de Valicourt consacrée à Marie-Thérèse de Savoie-Carignan. Princesse de Lamballe, figure proche de Marie-Antoinette et victime emblématique de la violence révolutionnaire, le livre retrace un parcours allant de sa naissance dans la maison royale du Piémont à son mariage avec le prince de Lamballe, puis à son veuvage précoce, avant son entrée dans l'univers de Versailles et de la cour. L'ouvrage met l'accent sur sa place auprès de la reine, sur les rivalités de cour qui l'ont entourée et sur la manière dont sa fidélité a été mise à l'épreuve par les tensions politiques et personnelles. Publié chez Talendier dans la collection Texto, il s'inscrit dans une veine biographique rigoureuse, nourrie de sources historiques, et vise à redonner à cette femme une épaisseur humaine et politique que les récits plus sensationnalistes ont souvent effacée. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une biographie resituant la princesse de Lamballe dans son identité historique réelle. Le livre ne traite pas seulement d'une amie de Marie-Antoinette, mais d'une personnalité historique précise, Marie-Thérèse de Savoie-Carignan. Cette approche est importante, car elle replace la princesse dans une trajectoire propre antérieure à sa rencontre avec la reine. Emmanuel de Valicourt insiste sur ses origines italiennes, son éducation princière et son passage de la cour du Piémont à la noblesse française par mariage. Le choix biographique permet ainsi de sortir d'une lecture réduite à sa fin tragique. Le lecteur comprend comment son identité, sa sensibilité et sa position sociale ont été façonnées par des structures de cour très différentes. Cette restitution donne du relief à une figure souvent connue de manière fragmentaire. Elle montre aussi que sa vie ne se résume pas à un lien affectif avec Marie-Antoinette, mais qu'elle s'inscrit dans des rapports familiaux, politiques et cérémoniels complexes. Deuxièmement, le mariage, le veuvage précoce et la dépendance au réseau de cour. Un des axes centraux du livre est le contraste entre le destin socialement privilégié de la princesse et sa fragilité personnelle. Mariée au prince de Lamballe, elle devient très vite veuve, ce qui la place dans une situation ambivalente à la cour protégée par son rang, mais exposée à des choix imposés par sa famille et par les équilibres politiques. Le récit montre que cette vulnérabilité, elle, n'est pas seulement intime, elle est aussi institutionnelle, car les femmes de haut rang dépendent fortement de leurs alliances familiales et de leur utilité politique. La maison du duc de Penthièvre, puis l'accueil de Marie-Antoinette, structure alors son existence. Le livre éclaire ainsi les mécanismes de la dépendance aristocratique au XVIIIe siècle. Le statut protège, mais il peut aussi enfermer. Cette lecture donne du sens à son apparente discrétion, qui n'est pas faiblesse mais adaptation à un monde codifié et souvent hostile. Troisièmement, Marie-Antoinette, la faveur et les rivalités à la cour de Versailles. Elle, ouvrage, accorde une place essentielle à la relation entre la princesse de Lamballe et Marie-Antoinette. Mais il l'inscrit dans une configuration de cour plus large. La princesse devient surintendante de la maison de la reine et occupe une position d'intimité et de visibilité qui attire les jalousies. La rivalité avec la duchesse de Polignac, souvent rappelée par les sources, illustre le fonctionnement politique des affections royales à Versailles. La faveur personnelle devient un enjeu de pouvoir. Le livre ne présente pas ces tensions comme de simples querelles sentimentales, mais comme des rapports de concurrence où les places auprès de la reine déterminent prestige, influence et protection. Cette perspective permet de comprendre pourquoi la fidélité de la princesse est si importante dans le récit. Elle ne se limite pas à l'amitié privée, elle prend la forme d'une présence constante dans un espace où la proximité du pouvoir expose autant qu'elle valorise. C'est, et là, une clé de lecture majeure du livre. Quatrièmement, la Révolution française comme point de rupture et mise à mort politique. La dernière partie du livre analyse la manière dont la Révolution transforme une femme de cour en cible symbolique. Après la journée du 10 août 1792, la princesse est emprisonnée avec la famille royale, puis transférée à la prison de la Force, avant d'être assassinée lors des massacres de septembre. Emmanuel de Valicourt insiste sur le caractère politique de cette mort, qui dépasse la seule brutalité de la foule. Selon le dossier historique mobilisé dans l'ouvrage, la disparition de la princesse participe d'une stratégie de déstabilisation de la monarchie et de fabrication d'un récit révolutionnaire. Le livre s'intéresse donc autant à l'événement qu'à sa construction mémorielle, comment une exécution peut être présentée comme un débordement populaire, alors qu'elle relève aussi un calcul politique. Cette lecture donne au texte une portée historique forte, car elle montre que la violence révolutionnaire ne vise pas seulement des individus, mais des figures de représentation associées à l'ancien régime. En dernier lieu, une écriture documentaire qui redonne dignité et complexité à une figure souvent réduite au mythe. Le livre se distingue par son ancrage documentaire et par son refus de l'anecdote morbide. En s'appuyant sur des archives et sur une bibliographie historique, Emmanuel de Valicourt reconstruit une existence à partir d'éléments vérifiables, ce qui lui permet de dépasser les récits simplifiés ou romanesques. L'intérêt de cette méthode est double, elle réhabilite la princesse comme sujet historique et elle rééquilibre un imaginaire longtemps dominé par la légende de sa mort. Le lecteur découvre une femme de fidélité, de réserve et de constance, mais aussi une aristocrate prise dans des contraintes de rang, de genre et de politique. Le livre est donc utile à la fois pour l'histoire de la cour, pour l'histoire de la Révolution et pour l'étude des représentations féminines au XVIIIe siècle. Sa valeur tient précisément à ce mélange de précision historique et de lisibilité narrative, qui rend accessible une matière complexe sans la simplifier excessivement. En conclusion, ce livre devrait intéresser en priorité les lecteurs d'histoire moderne, les passionnés de la Révolution française et tous ceux qui souhaitent comprendre la cour de Marie-Antoinette à travers une figure moins attendue que les grands noms habituels. Il peut aussi convenir à un public qui cherche une biographie historique sérieuse, fondée sur des sources, mais lisible et structurée autour d'une trajectoire humaine forte. Son principal apport est de restituer la princesse de Lamballe comme une personne historique à part entière, et non comme un simple personnage secondaire ou une victime de légende. Là où beaucoup d'ouvrages sur la période privilégient soit Marie-Antoinette, soit les grands événements révolutionnaires, celui-ci relie intimement Videcourt, rivalité politique et violence de 1792. Cette articulation lui donne une place singulière dans le paysage des biographies consacrées à l'Ancien Régime. Il apporte à la fois des repères historiques solides et une compréhension plus fine des mécanismes de faveur, de fidélité et de persécution qui structurent la fin du XVIIIe siècle français. Si vous souhaitez soutenir Emmanuel de Valicourt, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!